Le 23 septembre 2022, citoyens et territoires Grand Est organisaient avec la ville de Langres, dans le cadre de leur programme Petite Ville de Demain, une journée d'études intitulée « La ville du quart d'heure, un concept moteur pour les petites villes ». Ce concept de ville du quart d'heure, nous en avons beaucoup entendu parler au moment de la crise sanitaire. C'est un concept élaboré par Carlos Moreno, urbaniste et chercheur à Paris-Sorbonne. Cette conception de la ville entend offrir un rythme de vie apaisé, solidaire et bas carbone, en rendant accessible à pied ou à vélo, en 15 minutes, les 6 fonctions sociales, urbaines et territoriales essentielles d'une cité. Se loger, produire dignement, accéder aux soins, s'approvisionner, apprendre et s'épanouir. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons mobilisé 3 intervenants. Tout d'abord Sylvie Landriève, co-directrice du Forum Vie Mobile, un institut de recherche financé par la SNCF, dont les travaux portent entre autres sur l'analyse des mobilités quotidiennes ainsi que la place des déplacements dans nos modes de vie. À ses côtés, Marc Verdier, architecte, urbaniste et maître de conférence à l'École nationale supérieure de Nancy, ancien directeur du CIE 54. Il a en 2006 travaillé sur une étude d'entrée de ville à Langres pour développer les secteurs d'activité et le paysage général de la ville. Et enfin, Elsa Martin, docteur et maîtresse de conférence en sociologie à l'Université de Lorraine, chercheuse membre du laboratoire Lorrain de sciences sociales. Ses travaux de recherche portent sur l'attractivité des villes moyennes et plus particulièrement sur les politiques patrimoniales pour développer l'attractivité résidentielle et commerciale.
Bonjour et merci pour l'invitation. Donc moi je suis Sylvie Landriève, je dirige un institut de recherche sur la mobilité, mais comme tout le monde y donne un sens différent, plus précisément sur la place des déplacements dans la vie, en fait dans la vie des gens, si c'est vraiment ça qui nous intéresse. Et en fait on y réfléchit à la fois parce qu'on pense que la situation dans laquelle on est tout à fait nouvelle par rapport au passé d'avant le train, la voiture et l'avion, et aussi parce que ça va changer. Alors ça va changer pour nous pour deux raisons. Bien sûr les questions écologiques, puisque les déplacements c'est une source importante du problème, mais aussi pour répondre aux aspirations des gens. Je sais que c'est pas très politiquement correct, mais je dirais un certain nombre de choses qui sont pas du tout en phase avec ce qu'a dit Jean Viard. Donc pourquoi nous en fait on s'intéresse, pourquoi je suis là et pourquoi je suis très contente d'être là? C'est parce que ce que j'aime bien rappeler tout le temps, c'est qu'il y a quand même plus de gens en France qui vivent en dehors des métropoles que de gens qui vivent dedans, et que régulièrement, tous ces territoires, la campagne, les petites villes, les villes moyennes, etc., sont des impensés, des oubliés, des politiques publiques, ou alors sont pensés en creux, c'est-à-dire par différence, par relation, etc. Et donc nous, on pense vraiment que ce sont des territoires qui correspondent à la fois aux aspirations des gens et des territoires d'avenir au plan écologique et au plan de la résilience. Donc voilà, donc ce sera le sens en fait de mon intervention.
Merci. Bonjour, merci également pour cette invitation. Donc moi, je suis Elsa Martin, maître de conférence en sociologie, spécialisée en sociologie urbaine. Et en fait, mes travaux se sont effectivement intéressés tout particulièrement aux villes petites et moyennes. Et donc, par le biais de mes travaux, j'ai commencé à questionner la notion d'attractivité dans les villes moyennes. Et puis, ça m'a conduit à aujourd'hui développer des recherches plutôt dans le nord-est de la France. Et j'ai pu effectivement développer des travaux portés par le programme PopSU Territoire sur plusieurs communes, dont une recherche, comme cela a été dit, sur les trajectoires résidentielles des personnes âgées. Et puis j'ai aussi entamé un travail sur l'attractivité commerciale et en creux la vacance commerciale dans une petite ville en Picardie. Et donc à chaque fois en fait cette notion d'attractivité qui est assez centrale, et effectivement c'est aussi porté un intérêt sur des villes comme vous l'avez dit qui sont pas toujours au centre de la recherche. La sociologie urbaine c'est surtout centré sur l'étude des métropoles et donc à développer beaucoup de concepts qui marchent très bien pour expliquer les dynamiques qui se jouent, les dynamiques sociales, spatiales qui se jouent dans les métropoles et qui sont parfois reprises dans les villes petites et moyennes alors qu'on n'a pas du tout les mêmes dynamiques. Donc mon intérêt pour ces territoires, c'est vraiment de regarder ce qui se joue spécifiquement sur ces territoires et d'essayer aussi d'aller à l'encontre de certaines représentations que l'on peut avoir à l'égard de ces territoires. Et juste pour, j'en profite tant que j'y pense, sachez que le département et le laboratoire auquel j'appartiens organise un festival de sociologie à Épinal au mois d'octobre sur la question des villes petites et moyennes justement et sur la question de l'attractivité. Donc vous serez bien sûr bienvenue à cette manifestation.
Bonjour. Donc moi, je m'appelle Marc Verdier, je suis architecte urbaniste et c'est de là que je vais pouvoir m'exprimer. Donc quelqu'un qui est dans le projet. Alors il se trouve que je connais un petit peu le territoire pour être intervenu. C'est vrai qu'il y a presque une vingtaine d'années, on disait avec Madame le maire, sur des études sur la ville de Langres. Et puis il se trouve que je connais un petit peu aussi le secteur de la vallée de Laujon, Courcelles, Saint-Loup, etc., pour être allé dans cette maison. Voilà. L'urbaniste, enfin, quelque part, son boulot, c'est quand même accompagner les territoires dans le projet politique de ce territoire, que ce soit sur des documents réglementaires, des projets qui se traduisent dans un schéma de cohérence territoriale, dans un PLU, un plan local d'urbanisme intercommunal. Ou, voilà. Donc ça, c'est qui est l'expression d'un projet politique et le transformer en aménagement, en cadre de vie. Et qui est évidemment ce cadre de vie qui est très, très lié au mode de vie. Et alors, j'ai pas dit, je suis prof à l'école d'archi dans le domaine de l'urbanisme. Et quelque part, moi, je bouscule un peu mes étudiants en leur disant, je veux que vous ayez un point de vue sur la société dans laquelle on est, un point de vue critique, parce que vous ne pouvez pas faire votre métier si vous n'avez pas, à un moment donné, un point de vue sur la société et dans quel monde vous voulez vivre demain. Je pense que pour moi, ça ne suffit pas de faire des constats en permanence sur des statistiques, sur où on en est aujourd'hui. La question, c'est qu'on est dans un basculement. Moi, je suis à la fois très pessimiste sur ce qu'on est en train de vivre, parce que je pense que c'est des séries d'effondrements dans tout un tas de domaines. Mais je suis très combatif parce que je pense que ces effondrements nous obligent à être inventifs et à réinventer un système et un récit de vie. Je pense que ce dont on manque aujourd'hui, c'est un récit. Et c'est ce que j'essaierai d'expliquer tout à l'heure. Et comment ce récit se traduit dans des comportements, des modes de vie, avec un support qui est le cadre de vie. Et le problème aujourd'hui, c'est que le cadre de vie dans lequel on fonctionne, et tous, y compris moi en arrivant de Nancy ce matin, c'est le cadre de vie qui est issu des 40 ou 50 dernières années d'aménagement. D'une société consumériste, aux ressources infinies, à l'énergie pas chère, etc. Et que tout ça s'effondre, et que donc il faut refonder un système résistant pour que les populations, dans les 30, 40 années qui viennent, puissent résister aux chocs qui vont arriver.
Merci. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation et d'avoir respecté le timing aussi. Je vous propose de vous donner la parole successivement. Je me tourne vers la salle. Je vous propose qu'on les laisse parler tous les trois dans un premier temps et puis qu'ensuite je prenne vos réactions. C'est pour maîtriser le temps, tout simplement, et pour qu'on soit sûr de pouvoir à la fois les entendre, profiter de leurs éclairages, y réagir, et puis aller déjeuner à un moment donné aussi, ce qui deviendra probablement de plus en plus important dans l'heure qui va venir. Donc, on va démarrer avec vous, Elsa Martin. Alors, je vais introduire vos propos de manière un peu caricaturale, mais je crois que si je vous dis que la ville du quart d'heure, c'est un super concept de marketing territorial pour faire venir à Langres des Parisiens qui n'ont plus qu'un seul rêve, c'est de venir s'établir ici par milliers, vous ne serez pas tout à fait d'accord.
Tout à fait, c'est bien résumé. Effectivement, quand j'ai reçu l'invitation sur cette idée du ville du quart d'heure, voilà, ça m'a beaucoup questionnée. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est une très belle punchline, une expression choc, mais qui suppose plein de choses, en fait, qui pose question. D'abord, ça pose l'idée que les populations, elles habitent là où elles consomment là où elles travaillent et là où elles résident, en fait. Donc, tout serait centralisé au même endroit. Or, on sait aujourd'hui que les dynamiques territoriales ont éclaté, en fait, ces centralités et que ce n'est pas le cas, et que c'est encore moins le cas, je crois, dans des territoires en partie ruraux qui disposent de quelques centralités, mais qui oblige aussi les populations à être mobiles. Donc ça pose la question finalement de l'accessibilité à toutes les aménités urbaines. Ça pose aussi question parce que c'est une idée qui s'impose aux métropoles. Alors là, Jean Viard l'a très bien dit. Sauf qu'en fait, c'est pas neutre en fait comme idée, parce que ça s'adresse avant tout dans les métropoles à des populations qui habitent les centres-villes, qui sont plutôt de manière générale, tendancielle, des populations qui peuvent faire du télétravail, qui peuvent effectivement consommer sur place, qui recherchent d'ailleurs des commerces très particuliers et qui transforment aussi en même temps, de par leur présence, la physionomie même, notamment des commerces en présence. Si on part de gentrification, si on regarde la gentrification commerciale, on voit bien que ces populations qui habitent ces centres et qui disposent de certaines aménités urbaines transforment aussi en même temps ces centres et amènent parfois les populations les plus populaires à quitter ces espaces. Et là, encore une fois, cette idée très métropolitaine, je ne pense pas qu'elle puisse faire sens à toutes les communes et encore moins à des petites communes qui n'ont pas les profils socio-économiques des grandes villes et des métropoles. Une autre remarque, c'était aussi effectivement, comme vous l'avez dit, de penser que cette idée de la ville du quart d'heure puisse attirer des urbains, des métropolitains, des parisiens. Et là aussi, je me pose la question du pourquoi et comment est-ce que véritablement une telle notion peut en fait soudainement attirer un cadre qui habite Paris. Et d'autre part, est-ce que ces dynamiques territoriales d'attractivité qui ont parfois été présentées au moment du confinement, du post-Covid, est-ce qu'elles sont vraiment réalistes? Et là aussi, les recherches qui ont été notamment portées par le PUCA montrent que, en fait, l'exode urbain qui a été parfois pressenti par les médias n'est en fait qu'en partie réalisé. Ils vont souligner deux malentendus. Le premier, c'est de dire qu'en définitive, en fait, il n'y a pas eu un exode urbain au sens qu'on l'entend quand on parle d'un exode rural, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de déplacement massif de population métropolitaine vers les campagnes. Et d'autre part, ce que la recherche montre, c'est que quand il y a eu déplacement de population, ce n'est pas vers n'importe quelle ville, c'est plutôt des villes qui attiraient déjà des populations, notamment métropolitaines, et c'est plutôt la façade ouest, et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Monsieur Viard a dit, en fait, c'est que malgré tout, l'attractivité, elle se fait plutôt encore sur la face du littoral, sur certaines villes de l'ouest, et surtout sur des villes qui sont en fait déjà des villes attractives. Donc là aussi, ça pose vraiment question. Et de fait, moi, cette notion de la ville du quart d'heure, je me demande s'il ne faut pas avant tout se demander si elle a du sens pour les populations qui habitent en fait déjà à Langres, qui sont là, qui vivent leur ville, qui vivent leur territoire et qui ont peut-être aussi, eux, une représentation de ce que ça signifie, leur mobilité au quotidien, qui ont peut-être quelque chose à dire en fait sur cette notion.
Merci beaucoup pour cette première intervention. Marc Verdier, est-ce que vous souhaitez tout de suite rebondir? Quand on a préparé ensemble cette table ronde, vous nous avez tout de suite parlé des chocs à venir et de capacité des territoires à résister à ces chocs énergétiques, alimentaires, climatiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette question? Et pour faire le lien avec la ville du quart d'heure, est-ce que cette idée de ville du quart d'heure peut venir interroger le territoire sur cette capacité de résilience ou de résistance?
Oui, alors je trouve que c'est pas mal peut-être d'avoir une petite intervention de quelques minutes et puis oui, après de pouvoir échanger, y compris avec parce qu'évidemment, il y a plein d'éclairages de gens qui vivent le territoire et qui sont acteurs aussi. Oui, alors ce que j'ai peut-être pas dit, mais je vais le dire parce que c'est de là aussi que je puise un certain nombre d'éléments que je peux dire. C'est pas dans des expertises, mais c'est finalement des témoignages. Moi, ça fait presque 20 ans que j'anime à l'école d'architecture des ateliers dans les milieux ruraux, dans les territoires ruraux. C'est-à-dire que j'emmène des étudiants à la campagne. Alors, il y a 20 ans, dans une école d'archi, quand vous emmeniez des étudiants à la campagne, on vous prenait pour quelqu'un qui n'était pas sérieux. Maintenant, c'est normal parce que toutes les écoles font ça, parce qu'on a bien compris que c'était des vrais sujets. Pas d'ailleurs que des sujets en tant que rural, mais il y a des sujets parce que le rural a contribué à former, contribue à alimenter une réflexion valable dans tous les territoires, y compris urbains. Voilà, parce que c'est le croisement des ressources, de l'alimentation, de la biodiversité, de patrimoine qui sont l'expression de savoir-faire et d'intelligence, et comment on démonte tout ça et on le remonte avec modernité. Moi, je pense que c'est le vrai sujet. C'est finalement s'enrichir de ce qu'on a su faire. Alors, je dis toujours, dans la période de l'avant-pétrole, le pétrole a rendu stupide. L'énergie pas chère a rendu complètement stupide. Pendant 40 ou 50 ans, on a été sous perfusion d'un système qui n'est pas durable. On le comprend maintenant parce que ça s'effondre. Et donc peut-être qu'il faut aller voir comment on faisait quand effectivement on était dans des logiques d'économie permanente, de recherche d'économie permanente pour vivre dans des bonnes conditions avec les ressources locales. Et donc, moi, je trouve que c'est ça qui m'intéresse, c'est cette chance que j'ai eue de faire du compagnonnage dans les territoires un petit peu partout en France, plutôt dans le réseau des parcs naturels régionaux, moins nationaux, mais à un moment donné, qui m'ont montré des endroits où ça bougeait, où les gens réinventaient tout un tas de choses pour finalement bien fonctionner dans des systèmes de vie qui ne sont pas dans une logique d'autonomie ou d'autarcie. Alors, moi, j'utilise une espèce d'oxymore qui est aussi l'autonomie connectée, parce qu'on est effectivement, Jean-Pierre le disait, dans un monde complètement ouvert, complètement connecté, et qui apporte une richesse qui, moi, me semble extrêmement importante. Alors, la ville du quart d'heure, moi, je pense que c'est effectivement une punchline intéressante parce qu'elle pose la question des accessibilités. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre en accessibilité ? C'est-à-dire, quels sont les sujets qui forment le comportement et les modes de vie de chacun et qu'on a envie de mettre en tension ? Donc, c'est se nourrir, c'est se cultiver, c'est rencontrer les autres, c'est tout un tas d'éléments qu'il faut mettre en relation et à l'échelle d'un territoire qui n'est pas la ville de Langres, mais qui est finalement son aire de fonctionnement, d'influence. J'entendais l'autre jour un ami justement qui travaille, qui est impliqué à Courcelles, qui me disait que un des jeunes enfants, enfin, qui est au collège, ben, il partait, il se levait à 6h20 ou 6h15 tous les matins parce que le bus passait à 7h15 et qu'il y avait, il était en bout de course. Et donc, à un moment donné, c'était quand même un temps absolument incroyable. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, c'est un emboîtement d'échelle d'accessibilité qu'il va falloir réfléchir et qui va nécessiter de recomposer un certain nombre de choses dans ce territoire. Encore une fois, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, il y a cette espèce de fantasme de l'accessibilité facile, le fameux quart d'heure. Alors, cela dit, un quart d'heure à Paris, marcher un quart d'heure à Paris, marcher un quart d'heure à Nancy ou marcher un quart d'heure à Langres, c'est pas pareil. Je pense que c'est pas la même notion, c'est pas la même. On sait bien que on est dans des comportements qui sont aussi adaptés aux échelles de fonctionnement. Donc c'est pas si simple que ça. Et donc, cette vision un peu fantasmée d'accessibilité facile se superpose, encore une fois, à l'héritage de 40 années où finalement, c'est la voiture qui a géré l'ensemble des accessibilités. Or, on voit bien que pour plein de raisons, qui sont les coûts de l'énergie, mais pas que, hein, parce que la voiture électrique ne va pas sauver le monde. Enfin, moi, je n'y crois pas un instant. Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, à un moment donné, il va falloir essayer de refabriquer une armature territoriale de complémentarité entre une ville-centre et l'ensemble de ces composantes territoriales dans lesquelles il y a tout un tas de valeurs et d'éléments d'attractivité. Il va falloir refabriquer une organisation territoriale avec des réseaux d'accessibilité qui permettent effectivement de mettre en tension, de mettre dans la vie du quotidien de tout un chacun ce qui se trouve à Langres centre, et puis ce qui va se trouver dans les différents lieux de polarité, que ce soit un secteur de loisirs comme les lacs, que ce soit une gare dont on peut imaginer qu'elle redevienne, la gare de Langres, mais aussi Culmont-Chalindré, qui est une articulation, qu'elle redevienne dans le monde d'après quelque chose qui est plus accessible, etc. Moi, encore une fois, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'on soit vraiment sur une réflexion assez ambitieuse de récits, de sociétés, qui après va se traduire dans le paysage. Le paysage, c'est l'expression d'un système de société, et notre paysage actuel, il nous raconte une société, c'est les voiries, la collectivité qui a investi pendant 30 ou 40 ans dans des ronds-points, dans tout un tas de choses, etc. Et tout cet argent-là, il va falloir le déplacer et le réinvestir dans une autre organisation territoriale. Et vraiment, je me dis que la vraie question, c'est voir où sont les dynamiques de fonctionnement d'une autre accessibilité au fonctionnement du territoire qui seront plus solides, qui seront plus résistants. C'est Bruno Latour, qui est un autre sociologue parfaitement médiatique aussi, qu'on entend beaucoup, etc., qui le dit dans son bouquin que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Où atterrir, comment s'orienter en politique ». Il le dit, il dit le vrai sujet, c'est pas les COP 27, 28 et je sais pas où qui définissent les grands enjeux internationaux. Le vrai sujet, c'est fabriquer des territoires de résistance, là où les gens habitent, de façon à donner des capacités de fonctionnement dans les conditions qui seront les nôtres dans 2 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, des conditions de vie plus qu'acceptable, des conditions de vie désirables, intéressantes pour les populations dans les différents territoires. Donc c'est des territoires de résistance qu'il faut fabriquer. Et moi, je suis désolé, mais j'ai fait du compagnonnage un peu partout dans plein de territoires. Je me rends compte qu'il y a plein de choses intéressantes. Je vais donner un ou deux exemples. Là, je reviens d'une autre petite ville pour demain avec mes étudiants. On était à Fort-Calquier, dans les Alpes-de-Haute-Provence. On est allé visiter une petite opération d'habitat participatif. Alors, on me dit, ah là là, c'est pour les bobos, c'est pour... quand même savoir qu'en Suisse, ça se fait depuis une centaine d'années à cause des problèmes du coût du foncier et des coûts de l'habitat, etc. En Allemagne, 50% du logement se fabrique sous ces formes-là. Ça commence à apparaître avec cette culture rhénane qui descend chez nous. On va visiter une opération qui s'appelle Colibre. Vous pourrez aller voir sur Internet, c'est un truc assez génial. C'est 11 logements sur 3 500 m² de terrain. Il y a une personne âgée, la personne la plus âgée, elle a 85 ans, elle n'est pas isolée, elle a son logement. Il y a une famille avec trois enfants petits, donc il y a évidemment un appartement, une maison un petit peu plus grande. Bref, il y a 11 logements avec une diversité générationnelle absolument incroyable. On mutualise évidemment la buanderie et les machines dont on n'a pas besoin tous les matins. Il y a un atelier de menuiserie parce qu'il se trouve qu'ils ont fait pas mal d'autoconstruction, etc. Donc, ils ont fabriqué ça. Il y a un atelier plutôt général pour tout ce qui est bricolage, etc. Il y a une voiture partagée. Il y a une maison d'amis, ce qui leur a permis d'ailleurs d'accueillir deux familles ukrainiennes. Et un certain nombre de services comme ça qui fonctionnent. Ça veut dire que j'ai... à moins 40 ou 50 mètres carrés, si je suis en couple tout seul, ou voilà. Si j'ai une famille, j'ai un peu plus grand, mais je chauffe ce dont j'ai besoin. Par contre, j'ai accès à des services auxquels j'aurais jamais accès autrement. Pouvoir d'achat qui baisse, problème d'énergie, problème, voilà, tout ce qui fait que ressources rares. L'idée pour moi, c'est pas de construire toujours la même maison individuelle sur une parcelle qui est un peu plus petite, avec toujours la même logique. C'est pas de faire toujours pareil, mais moins. Mais c'est de penser autrement. Alors peut-être qu'il y a d'autres façons de réfléchir à comment on peut habiter autrement. Mais il me semble que là, il y a des situations qui sont extrêmement intéressantes par rapport à la façon de voilà. J'avais visité aussi, je trouve ça assez marrant, parce que je présentais ça à Chaumont, où j'étais il y a quelque temps sur le PLUI, et je montrais comment des communes étaient dans des logiques d'économie, en particulier par exemple sur de l'éclairage public. Et je montrais une commune dans l'Indre où j'étais allé, où effectivement, il y a eu un refus absolu de rentrer dans la logique de « on achète des candélabres qui valent une petite fortune et quelque part qui modifient complètement l'aspect rural de la commune ». Et en fait, ils avaient négocié maison par maison l'ampoule qu'on mettait. Voilà. Et on avait un éclairage finalement assez modeste qui a coûté très peu cher en investissement et qui coûtait très peu cher... Voilà. Alors on voit bien comment aujourd'hui, là, le coût de l'énergie fait qu'on a tout un tas de communes qui sont en train de modifier complètement leur éclairage en disant on n'éclaire plus de 1h du matin à 6h du matin. Et on commence à dire, il commence à y avoir des études qui sortent en montrant que de toute façon, ça n'a aucun impact sur la sécurité, que c'est absolument faux, que le fait d'éclairer, ça n'a aucun impact là-dessus, etc. Et on se rend compte que si on redevient un peu sage sur l'économie, eh ben peut-être qu'on peut essayer de réfléchir à comment on peut aménager autrement. Et on pourrait prendre tout un tas d'exemples pour montrer que aménager et faire des choix d'aménagement qui sont autres permet à un moment donné de rentrer peut-être dans des encore une fois des territoires un peu plus solides par rapport aux enjeux qui sont ceux dans lesquels on est aujourd'hui. Voilà. Moi je pense vraiment que cette question et la question, alors je vais revenir encore là-dessus peut-être, c'est qu'est-ce qui fait et c'est pour ça que moi Amazon là c'est un truc sur lequel je pense que peut-être que je suis complètement utopiste, mais si on est utopiste, peut-être qu'on si on l'est pas, en tout cas je pense qu'on peut pas être dans ces disciplines du projet. Je me dis que, et vous avez posé la question, et je pense que c'est tout à fait juste, le vrai sujet, c'est faire société. Le vrai sujet, c'est où est l'espace public, au sens très très général du terme. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet aussi de débat et de discussion. L'espace public, c'est pas simplement la place du théâtre qui est devant ici, c'est pas simplement la rue Diderot, mais c'est peut-être l'endroit où on se croise, où on croise les autres. Donc c'est là où, et c'est peut-être pas obligatoirement d'ailleurs le supermarché ou l'épicerie, c'est peut-être le jardin partagé, comme avant d'ailleurs, parce qu'avant, enfin avant, peut-être avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, on se croisait au jardin. et dans la lisière du village ou au verger. Et je me dis que ça, on va peut-être le retrouver. Et on voit bien la plus-value énorme. Et on voit bien comment dans les villes, moi à Nancy, je vois, on a travaillé sur un quartier où on a mis des jardins. Il y a une liste d'attente. Il y avait 30 ou 40 jardins familiaux. On a 200 personnes qui attendent pour avoir un jardin. À Courcelles-sur-Aujon, il y a un maraîcher qui est venu s'installer. Alors en plus, qui a un accord avec la maison d'accueil de Courcelles pour les enfants qui viennent, etc. Et on voit bien comment ce maraîcher, eh bien, il fabrique aussi de la sociabilité supplémentaire et pas simplement en emmenant les paniers, parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent venir au jardin, etc. Donc la question, c'est où est l'espace. Et peut-être que la question de la mobilité pourrait redevenir un enjeu d'espace public. Est-ce que des voitures partagées, c'est-à-dire que pas remplacer 50 voitures fossiles par 50 voitures électriques, parce que de toute façon on aura des problèmes de lithium et des problèmes de... Il y a quand même un mec qui a inventé un machin qui roule, qui fait 2 tonnes, dans lequel on a 500 kilos de batterie, qui s'appelle une Tesla, et qui vous dit que vous allez sauver le monde en achetant une Tesla. Enfin, je veux dire, c'est quand même délirant, quoi. Alors que peut-être il faut simplement se dire que si on structure le territoire pour dire qu'il y a des polarités et qu'on met en relation et en tension ces polarités et qu'après on organise les mobilités qui deviennent peut-être aussi de nouveau des endroits où on se rencontre, hein, je pense qu'on peut peut-être essayer d'imaginer les choses autrement. Alors voilà, je pense qu'il y a des notions, comment on redébat sur où on se rencontre, comment on consomme, comment on se nourrit, voilà. Et tout ça, je pense que c'est le fondamental des modes de vie quelque part qui vont influer sur la transformation d'un cadre de vie hérité des 40 dernières années qu'il faut imaginer pour les 40 années qui viennent.
Merci.
Je me suis éloignée du quart d'heure. Hein.
Merci beaucoup. C'est aussi des questions qu'on va pouvoir explorer cet après-midi puisqu'on va aller se promener dans les rues de Langres. On va justement voir ce que c'est que cet espace public, cette question d'accessibilité, aussi pour les populations qui vivent ici. Et donc cet après-midi, on vous proposera de rentrer dans la peau d'Yvonne qui a 85 ans, de Thomas qui est un jeune papa en congé parental, je crois, et j'en oublie, pour voir comment eux peuvent vivre cet aménagement aussi de la ville. Je vous propose qu'on écoute Sylvie Landrieve pour que vous puissiez à la fois peut-être déjà réagir à ce qui a été dit et aussi nous faire part de ce sur quoi portent vos travaux et notamment la question des mobilités du futur et de quelles pourraient être des solutions alternatives, notamment à la voiture individuelle dont Marc Verdier vient de reparler.
Alors, donc effectivement, moi, ce que je vais proposer, en fait, c'est... du coup, je m'inscris complètement dans les deux diagnostics faits par Elsa Martin et Marc Verdier. Hein, et je vais juste quand même rappeler quelques chiffres, à la fois parce qu'il y a quand même des choses qui sont un peu dramatiques, et en même temps, parce qu'en fait, on pense qu'il y a des solutions possibles. Donc, c'est pas juste... Alors, sur les 15 minutes... En fait, ce que ça veut dire en termes de déplacement, quand on parle de ville du quart d'heure, c'est quand même, il y a un sous-entendu, c'est un 15... Enfin, historiquement, ça vient du 19e siècle. La ville dans laquelle on se déplace à 15 minutes, c'est un concept du 19e d'Ebenezer Howard, qui pensait, en fait, hein, que la ville idéale, c'était celle où on faisait tout en 15 minutes à pied. Et donc, en fait, il s'opposait comme ça à la très, très grande ville, donc aujourd'hui, on dirait la métropole, mais aussi à la campagne. Mais en fait, c'est aussi un concept qui a été repris par Le Corbusier. Et c'est avec cette pensée-là, de la marche entre... Alors là, pour le coup, lui, c'était entre deux grands ensembles, qu'il a, par exemple, reconstruit, donc, pas très très loin, Saint-Dié. Donc en fait, c'est juste pour dire que ce n'est pas un concept nouveau, que cette idée qu'on doit pouvoir relier comment nos différents points de nos activités quotidiennes en 15 minutes à pied, ça a déjà plus d'un siècle. Donc ça, voilà, c'est l'idée, ça c'est le récit, c'est le slogan ou la punchline, comme disait Elsa. Mais après, il y a la réalité des déplacements. Alors ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est qu'on s'est mis à se déplacer de plus en plus vite, de plus en plus loin, de plus en plus souvent. Et tout ça, alors au début grâce au train, plus récemment grâce à l'avion, mais quand même en gros pour l'essentiel grâce à la voiture. Et donc là, c'est pareil, je vais vous donner quelques chiffres parce que malgré tout, ça montre l'ampleur en fait du sujet et du problème à résoudre. Plus vite, ça c'est évident hein, qu'on va beaucoup plus vite en voiture que qu'on ne peut le faire à pied. On est plus nombreux à le faire. Il faut quand même avoir en tête que même si en ce moment on parle de l'augmentation du coût de l'énergie, le coût de l'essence ou le, je sais pas, le, on va dire la vitesse économique de la voiture, pour parler comme le socio-économiste des transports Yves Crozet, a été divisé par 4 depuis 1970. Donc il est 4 fois, ça nous coûte 4 fois moins cher de nous déplacer au kilomètre qu'il y a une trentaine d'années, même un peu plus, une cinquantaine d'années. Donc c'est juste pour dire que on n'est pas du tout dans un moment historique ou comment de renchérissement de la mobilité. Hein. Je ne parle même pas du low cost pour le trafic aérien. Et donc, en fait, donc là, c'est pareil, les socio-économistes ont longtemps pensé en fait, que le fait d'aller beaucoup plus vite, ça nous permettrait de moins nous déplacer, en tout cas moins longtemps. Et en réalité, ce n'est pas du tout ce qu'on fait, puisqu'on continue de se déplacer en moyenne, à peu près tous, au moins une heure par jour de façon motorisée. Et pourquoi ? Parce que ça nous permet d'aller plus loin. Et donc, en moyenne, en France, on fait 60 km par jour. Donc, vous voyez bien en fait un peu l'écart qu'il y a à combler entre la ville du quart d'heure et le récit en fait d'une ville qui serait comme ça hors territoire en plus, dans laquelle il serait facile de tout faire à moins de 15 minutes. Mais je dirais que qui habite, je vais prendre Paris puisque en fait Moreno a travaillé a travaillé en particulier sur Paris. Mais qui habite à 15 minutes à pied de son travail? Mais quasiment personne, en fait. Et ce n'est même pas une question de classe sociale, en réalité. Il y a quasiment personne n'est dans cette situation-là. Donc, bon, c'est quand même une idée très... comme on dit, c'est un récit, mais enfin, qui est quand même assez loin de la réalité actuelle. Et donc, en réalité, donc, ce que cette vitesse elle a permis, et l'utilisation de la voiture, c'est d'avoir notre programme d'activité, parce que quand nous, on parle de mode de vie, c'est notre programme d'activité. Notre programme d'activité, c'est quoi ? C'est, en gros, le centre, c'est notre lieu de domicile. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à en avoir plusieurs, pas forcément les plus riches qui ont une résidence secondaire, mais ça peut être aussi les ouvriers qui habitent dans les Hauts-de-France et qui trouvent des Formule 1 des chambres chez l'habitant pour travailler sur les chantiers du Grand Paris. Hein. Donc la multirésidentialité, déjà, ce n'est pas qu'une histoire de riches. Donc on a, bon, disons, un domicile pour simplifier, on doit aller travailler, on emmène les enfants à l'école, on fait nos courses, les courses elles sont de plus en plus rarement à proximité immédiate de notre domicile puisqu'elles ont été progressivement depuis les années 70 concentrées dans les centres commerciaux, etc., etc. Donc en réalité, en pratique, quoi qu'on dise, moi je voudrais vraiment sortir de l'opposition ville-campagne qui me semble vraiment d'un autre âge. Aujourd'hui, on est tous très dépendants de la voiture. Alors, quand je dis on en est dépendant, c'est déjà un jugement de valeur. Mais en réalité, on est content d'avoir des voitures parce qu'en fait, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, 80% des kilomètres parcourus le sont en voiture. On n'arrête pas de parler de plein de choses comme le covoiturage, comme l'autopartage, les mobilités douces, etc. Moi, je voudrais rappeler que les kilomètres parcourus en voiture continuent d'augmenter, que le taux d'équipement en voiture continue d'augmenter et que le nombre de personnes dans les voitures continue de baisser. Donc on a été à 1,4 personnes en moyenne par voiture dans les années 60, on est descendu à 1,3, puis 1,2, et maintenant on tangente 1,1. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est presque en dissonance cognitive. On parle d'autant plus de la ville du quart d'heure, du fait que tout serait possible, tout serait jouable, et puis plein de nombreuses révolutions dont a parlé Jean Viard, mais alors qu'en réalité, le quotidien de la plupart des gens, c'est de prendre sa voiture tous les matins pour exercer son métier. Alors, a fortiori, dans les métiers essentiels tels qu'ils ont été évoqués, parce qu'effectivement... ça va être très difficile pour l'infirmière à domicile d'habiter à côté de son lieu de travail, parce que justement son lieu de travail, elle a besoin de sa voiture pour rejoindre l'ensemble des personnes âgées qui habitent dans le territoire. Donc en fait, c'est quand même aussi une vue de l'esprit, c'est-à-dire comme si les métiers essentiels c'était forcément l'infirmière qui travaillait seulement dans un hôpital. Mais c'est une partie du sujet, mais là il y a énormément de métiers. Et donc si je me concentre deux secondes sur les mobilités domicile-travail, avec l'évolution du travail, on a plus de métiers au cours de la vie. On n'a pas le même métier que son conjoint, sa conjointe quand on vit en couple. On n'a pas le même métier que ses enfants. Les enfants n'habitent pas forcément dans la région où on habite soi-même, etc. En réalité, on est dans un monde de plus de mobilité. Donc, pour l'instant, on a un gros problème à résoudre parce que le transport, c'est 30% des émissions de CO2, c'est-à-dire que c'est un tiers du problème, et la voiture, c'est 20%, c'est-à-dire que c'est deux tiers des 30%. Donc, comment on fait ? C'est-à-dire que au lieu de se dire, oh ben, en fait, finalement, en gros, le problème, c'est la campagne, mais ailleurs, en fait, c'est résolu. Mais en fait, non, pas du tout, c'est résolu à peu près nulle part. Et comment ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des politiques publiques depuis déjà plusieurs décennies où on investit massivement dans les transports collectifs, et à juste titre, et sans doute que si on ne l'avait pas fait, si on arrêtait de le faire, ce serait pire. Mais pour l'instant, pour parler le jargon, il n'y a pas de report modal, il n'y a pas moins de déplacements faits en voiture au profit des déplacements qui seraient faits en transport collectif. Et pour quelle raison ? Eh bien parce que par ailleurs, il y a de plus en plus de déplacements faits en transport collectif. Les transports collectifs sont assez pleins, même si, alors bien sûr, suivant les endroits, il y a des transports collectifs qui disparaissent, mais malgré tout, il y a eu beaucoup d'investissements, par exemple dans les TER, au hasard, pour ne pas les nommer. Et je suis arrivé hier, le TER était bondé. Il y avait toute une partie des gens dans le TER Paris-Langres qui étaient debout jusqu'à 3. Donc c'est pour dire que les transports collectifs sont utilisés. Mais pourquoi en fait le report modal, quand on parle de pourcentage, ne se fait pas ? C'est tout simplement parce que le nombre de déplacements augmente. Donc le nombre de déplacements et les kilomètres parcourus augmentent plus vite que la production d'alternatives à la voiture solo ou à l'autosolisme, pour parler comme les spécialistes de ce sujet. Donc, je crois que vous vouliez tout de suite que j'enchaîne avec la deuxième partie. Donc, qu'est-ce que ce serait un transport du futur ? Donc, nous, on se dit, les expérimentations comme celles dont parlait Marc Verdier, c'est vraiment très intéressant. Et effectivement, ça donne, des idées, de l'espoir au territoire. Mais j'étais dans un séminaire en fait sur la mobilité en espace rural. Il y avait le directeur de l'association des maires ruraux qui disait mais en fait on coule sous les expérimentations. Il y en a plein qui marchent, mais quand est-ce qu'on déploie quelque chose ? Parce que pour l'instant il n'y a pas de déploiement. Donc c'est vrai que nous on essaye d'être constructif, on essaye de se dire finalement comment on fait ? Imaginons que c'est un peu comme le Covid nous arrive dessus, on a trouvé des solutions, Je fais une petite remarque par rapport à ce que disait Jean-Vierre tout à l'heure sur le Covid. Le Covid, quand même, si le virus se déplace, pourquoi, en fait, c'est une épidémie mondiale ? C'est quand même à cause de la mobilité longue distance. C'est parce que, en fait, pourquoi, en fait, ça passe directement de Chine en Italie ? C'est bizarrement la route de la soie aérienne. C'est-à-dire que, pourquoi le Covid se déplace aussi rapidement ? C'est à cause de la vitesse des déplacements. Et pourquoi il se propage aussi rapidement ? Alors après, et comment on lutte contre la propagation du virus ? En restant chez soi. Donc en fait, il y a quand même un lien direct entre les déplacements, la place des déplacements dans les modes de vie, et la politique sanitaire et la propagation du virus. Je referme la parenthèse pour dire donc comment on pourrait faire dans le futur. Et si on se dit en plus que le réchauffement climatique et lutter contre le réchauffement, c'est de plus en plus urgent, et puis qu'il faut le faire, si possible, en respectant les aspirations des gens. Donc ce qu'on a vu avec le Covid, et nous ça a conforté en fait une enquête qu'on avait faite précédemment, les gens aspirent, et donc quand je dis les gens, c'est on a enquêté 12 000 personnes, pas seulement en France, mais dans les pays occidentaux, donc dans les autres endroits, en fait, les autres pays où on est suffisamment riche pour avoir des voitures, et où il y a une sorte de métropolisation des territoires. Donc 8 personnes sur 10 aspirent à vivre au quotidien en plus grande proximité. Donc si je dis en deux mots ce que ça veut dire, donc après on a essayé de quantifier ce que ça veut dire vivre en plus grande proximité, on va dire que les gens qui habitent dans les très grandes villes, pour eux la proximité ça se compte en minutes, et donc on comprend mieux pourquoi le concept de ville du quart d'heure peut faire florès pour les métropoles. Mais quand on interroge les gens qui n'habitent pas dans les très grandes villes, pour eux la proximité c'est de la distance, c'est du kilomètre. Et donc c'est quoi la proximité en kilomètres ? Qu'est-ce que les gens aimeraient ? Les gens aimeraient pouvoir faire leur programme quotidien, donc je rappelle, les travails, les loisirs, aller voir sa famille, aller boire des coups avec les copains, à moins de 30 km. moins de 30 km. C'est, on va dire, c'est plus petit qu'un département. Ça se fait quand même pas aisément. Ça se fait quand même pas aisément en vélo. Donc même en étant sportif, etc. On peut pas. Donc le vélo, ça fait partie des solutions, mais ça permet pas complètement de répondre à cet objectif-là. Donc comment on fait pour imaginer un système qui soit moins polluant? Donc on est sûr qu'il faut prendre moins de sa voiture. Et qui répondent aux aspirations des gens. Je fais une autre remarque, je ne crois pas que vivre en plus grande proximité, c'est vivre replié. Ça, c'est vraiment des analogies entre les mots, mais qui ne signifient pas grand-chose. On peut vivre... Il y a des ghettos urbains, il y a des ghettos dans le 16e arrondissement de Paris. Je ne vois absolument pas... On peut vivre replié en plein 16e arrondissement à Paris et vivre de façon très ouverte dans n'importe quel... moi, je connais mieux la Bretagne que la région du Grand Est, mais en Bretagne, il y a des endroits très ouverts, des endroits très fermés. Donc, ce n'est pas lié à la densité, c'est pas lié... C'est une vision... je dirais, de gens qui habitent la ville et qui veulent absolument se faire croire qu'eux, ils sont plus ouverts que les autres. Je ne vois rien qui puisse le prouver. Donc nous, ce qu'on a imaginé, c'est qu'on s'est dit, en fait, il fallait un système qu'on peut déployer rapidement. Puisque on se dit qu'il y a urgence, aussi bien pour répondre aux désirs des gens que pour les questions écologiques. Il se trouve qu'en France, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de routes qu'ailleurs. Alors, je vais dire vachardement que c'est sans doute parce que les ingénieurs des ponts ont longtemps été payés au kilomètre de route. Mais en tout cas, il se trouve qu'on a... Alors là, je vais reprendre les chiffres pour ne pas dire de sottises. Et c'est vrai pour les ronds-points. Alors là, il y a une cause très, très particulière. Et là, c'est à cause d'un élu breton, d'ailleurs. Je peux faire une petite incartade sur les ronds-points. Les ronds-points, en fait, c'est un élu breton qui est allé aux États-Unis. Alors, vous verrez, si vous cherchez sur Internet, il y a une vidéo très rigolote qui se paye sa fiole et qui raconte comment en revenant des États-Unis, il a trouvé ça formidable. Il a commencé à vouloir en faire en Bretagne, et puis ça a essaimé, et puis finalement à 1 million d'euros à l'époque le rond-point, je sais pas combien c'est maintenant, finalement tout le monde a trouvé beaucoup d'intérêt à construire des ronds-points, y compris quand il n'y a que trois voies qui se croisent. Mais je referme cette parenthèse. Donc je voulais vous donner les chiffres de la route. En fait, on a 16 km de route par habitant. Donc j'ai perdu ma feuille. C'est embêtant. Voilà. Et 16 km de route pour 1000 habitants, j'ai dit des bêtises. Et c'est pour comparer, donc si je compare aux pays qui sont autour de nous, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc bien entendu, il y a des pays plus petits, comme l'Allemagne et comme le Royaume-Uni, donc qui sont à 300 000 km², alors que comme nous, c'est 500 000, mais qui ont des populations comparables. A contrario, on peut se comparer aussi à l'Espagne. Là, pour le coup, c'est une surface du territoire qui est à peu près la même que la nôtre. Donc, en gros, nous, on est à 16, l'Italie et l'Allemagne à 8, le Royaume-Uni à 7 et l'Espagne à 3. Donc on se dit, bien, puisqu'on a autant de routes, pourquoi on n'imaginerait pas? Et donc là, on a fait travailler un ingénieur, puisqu'en fait, là, je rejoins aussi l'idée de Marc Verdier de faire du projet et pas seulement, des concepts. Donc on a fait travailler un ingénieur pour voir en fait ce que ça pourrait être. Donc lui, il dit, voilà, finalement, on pourrait dédier une partie du réseau des routes existantes on va dire, au transport collectif et au mode actif. Donc, il imagine un schéma à trois niveaux. Donc, ce qu'il appelle un métro de surface, mais donc ce n'est pas un métro de surface, c'est un système. Alors, pour vraiment qu'il y ait une alternative, pour que ça corresponde aux besoins des gens, il faut que ce soit cadencé. Si ce n'est pas cadencé, si vous commencez à chercher les horaires, vous commencez à regarder, vous n'êtes jamais sûr à quelle heure passe le transport, etc., de toute façon, vous n'allez pas le prendre. Donc le cadencement, c'est vraiment l'impératif. De ce point de vue-là, c'est aussi le modèle de la Suisse. Donc il faut qu'il soit un métro de surface qui dessert les villes-centres et qui fait le lien avec les villes secondaires. Donc je vais passer assez vite parce que sinon je monopolise trop la parole. Un réseau unifié de transport collectif express sur route, lui aussi cadencé, pour innerver toutes les zones rurales et moins denses. Donc, sachant que effectivement, pour nous, ça n'a aucun sens de parler de la ville sans parler du territoire. Et puis donc bien sûr une réallocation d'une partie des routes secondaires pour les modes actifs, les vélos et la marche. Alors c'est quoi l'échelle ? Pour nous l'échelle c'est au maximum le département. Donc là la grande région elle nous semble pas forcément la voie de l'avenir pour les transports. D'ailleurs on fait remarquer que bizarrement la loi d'orientation des mobilités continue sur les vieilles pratiques à distinguer, à s'occuper essentiellement de transports collectifs et à ne pas réfléchir à l'ensemble du système de déplacement où on doit penser ensemble la route et les transports collectifs. Donc nous, finalement, ce qu'on propose, on va dire que c'est de socialiser une partie de l'usage de la route. Alors, à l'échelle du département, il y a une autre raison, hein, c'est que le département, c'était quand même l'échelle de territoire qui a été inventée avant qu'on ait du train, de la voiture et de l'avion, bien sûr, et justement pour que chaque habitant, à l'époque, puisse relier la préfecture en une journée de cheval. Donc, au-delà de la boutade, c'est pour dire qu'en fait, on a vécu avec des territoires correctement desservis avant la diffusion de la voiture individuelle. Et donc, on doit parvenir à revenir en arrière, puisque de toute façon, le transport collectif express, ça n'existait pas, hein, et c'était pas cadencé, etc. Mais vraiment, c'est juste pour dire que c'était possible, et donc c'est possible de penser autre chose. Et donc, juste pour dire que c'est une façon d'arrêter de fustiger, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, où en fait, en gros, on dit, finalement, c'est des gens qui sont trop modestes pour habiter dans les centres-villes, qui sont installés après loin de leur travail et puis qui ne sont pas contents quand on augmente le prix de l'essence. C'est vraiment une vision donc plus que caricaturale, mais qui ne correspond pas à la réalité des déplacements. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui habitent et travaillent dans les centres-villes, y compris à Paris et a fortiori dans toutes les autres métropoles, dans toutes les villes moyennes et dans toutes les petites villes. La majorité des déplacements se font de périphérie à périphérie. Et donc, on continue d'avoir des politiques qui se centrent soit sur les centres-villes, soit sur la relation entre le centre-ville et le reste du territoire, au lieu de penser réseau. Donc voilà, c'est ma proposition.
Merci beaucoup, Sylvie Landrieve. Est-ce que Marc Verdier, Elsa Martin, vous souhaitez déjà réagir ? Et puis ensuite, on pourra prendre une ou deux réactions dans la salle ?
Non, mais moi je suis absolument d'accord. J'aime bien l'idée de dire que... Alors, c'est intéressant que 8 habitants sur 10 se posent la question des proximités, parce que je pense que c'est le vrai sujet. C'est-à-dire que la sobriété, qui est un mot qui vient d'être découvert cet été, est quand même le sujet qui, depuis 20 ans, nous agite, nous, en tout cas en matière d'urbanisme, d'aménagement, et vous, j'imagine, en tant qu'élu, ou responsable associatif, ou même habitant. Je pense que c'est le vrai sujet et effectivement ça sera une négociation fine, intelligente et inventive entre les capacités liées aux ressources locales, les capacités à vivre avec ce que le territoire offre comme potentiel, comme valeur, comme ressource, et puis effectivement cette ouverture qui fait que Langres, ça fonctionne aussi avec la proximité de Dijon, la proximité de Nancy, des polarités différentes, des fortes polarités comme ça, et qu'il y a aussi des niveaux d'attractivité qui sont encore une fois dans le périmètre de Langres, qui correspondent peut-être à l'intercommunalité Langres, peut-être au pays, enfin, où il y a à un moment donné des valeurs, etc. Encore une fois, je reprends Courcelles, parce que c'est vachement intéressant, Courcelles. Je suis désolé, je parle de ça parce que je connais pas tout, mais je connais ça. Parce que quand même, c'est un lieu qui est une maison d'accueil qui fait qu'il y a des gens de toute la France qui viennent pour des stages, pour des formations, des enfants qui viennent d'un petit peu partout, alors peut-être plutôt Grand Est, mais un peu partout, et qui viennent là, et qui, quelque part, font que cette idée de dire « on vit entre soi », c'est pas vrai. Même dans ce village-là, et qui en même temps est enraciné dans des capacités locales de fonctionnement, et qui fait que pourquoi on vient là ? Parce qu'il y a un lieu, parce qu'il y a la nature. Demain, le parc national, effectivement, qui apporte une plus-value de lisibilité, de valeur, etc. Et je suis sûr qu'on prend 10 sites comme ça dans la proximité de Langres, et on fabrique un réseau, un tissu qui devient un tissu assez remarquable au sens local, identitaire. C'est l'ADN de ce territoire qui en fait sa valeur et sa puissance et son attractivité pour les gens qui sont là et puis peut-être qui viennent, qui passent, qui peuvent s'installer ponctuellement, mais ce n'est pas obligatoirement l'objectif, mais qui par contre croisent ce territoire. Et je pense que c'est ça qu'il faut réorganiser avec les conditions de demain. Moi, c'est pareil, Amazon, alors on peut dire Amazon, c'est un phénomène aujourd'hui, etc. Moi, je pense que c'est un système qui va s'écrouler, Amazon. Je suis désolé. Alors peut-être que c'est un espèce de fantasme de ma part, mais quand on voit ce que ça consomme en carton, en matière, en énergie, parce qu'il faut, en plus, alors moi j'y suis pas hein, sur Amazon, mais j'ai cru comprendre que si vous étiez un super client d'Amazon, vous pouvez avoir le truc en 3 heures ou en 8 heures ou en 12 heures ou je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'en plus, on vous vend de la rapidité. Mais l'avenir de la société, c'est peut-être pas ça. Alors encore une fois, peut-être que je suis en train de fantasmer complètement. Moi je pense qu'on est quand même dans ces systèmes qui sont une définition, une notion du progrès dont je ne suis pas complètement convaincu qu'elle soit celle que tous les gens demandent. Et quand on voit qu'il y a 8 personnes sur 10 qui vont plutôt vers l'idée de proximité, est-ce qu'il n'y a pas aussi 8 personnes sur 10 qui voudraient vivre plus calmement, plus avec plus de temps, avec moins de mobilisation sur... Et peut-être, alors moi je le vois avec mes étudiants quand même, j'avais 90 étudiants dans l'amphi hier, je vois bien comment ils fonctionnent aussi, eux, cette génération-là, avant d'être absorbée par la machine de la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Parce qu'évidemment, tant qu'on est étudiant, on peut effectivement fonctionner dans une logique de mutualisation, de partage, de recul par rapport au système. Et puis quand on devient professionnel, on est bouffé par le système. Et donc, moi, j'ai tendance à penser que notre responsabilité, quand on est aux manettes, soit en tant que décideur, soit en tant que technicien auprès des décideurs, c'est de participer à l'idée de dans quelle orientation où on voudrait aller. Et je pense que des territoires comme ici ont peut-être une plus grande capacité parce que justement c'est aussi de la proximité, les gens se connaissent. Enfin, je pense qu'il y a aussi toute une mécanique d'échelle qui fait qu'on est peut-être plus capable de participer à la réinvention d'un système qui va mettre évidemment une génération à transformer le territoire. Et on voit bien les hypothèses de gestion d'une autre façon d'utiliser le réseau routier, etc. fait partie des outils, des moyens qu'on peut mettre au service d'un nouveau récit de société. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas mélanger les outils et tout ce qui va faire qu'à un moment donné, la ville du quart d'heure, les outils de mobilité, etc., ils servent à quoi? Ils servent à qui? Et je pense qu'il faut qu'on soit suffisamment costaud pour travailler sur cette réflexion. En plus, je trouve que la valeur humaine la plus importante dans un territoire, c'est le récit du vivre ensemble, de cette capacité de dire comment on vit ensemble et comment on a envie de vivre ensemble dans les 10-20 ans qui viennent. Et la mauvaise nouvelle, mais qui est aussi une bonne nouvelle, c'est que les catastrophes qui nous tombent dessus nous imposent de réfléchir à ça. Prenons-le comme une opportunité. Et je pense que les débats philosophiques qui se passent dans cette ville, etc., sont aussi des opportunités de mettre ça sur la table, quoi.
Merci. Elsa Martin ?
Oui, je voudrais juste... ça rejoint tout à fait les propos qui viennent d'être dits. Hein. On a parlé beaucoup de proximité, de tout le monde veut du local, etc. Mais moi, je dirais oui, mais pas que, en fait. C'est-à-dire que quand on interroge aussi les populations qui habitent dans des territoires plus ou moins ruraux, on a effectivement une attente d'avoir des services sur place, des services publics, des services aussi de consommation, hein, pouvoir consommer. Et dans les Vosges, auprès des populations âgées, on avait des populations qui était ravie aussi d'avoir, par exemple, des marchands ambulants qui venaient jusqu'à elle, en fait, parce que ça permettait un maintien à domicile, par exemple. Mais ces mêmes personnes, elles nous disaient aussi être parfois ravies, de temps en temps, de pouvoir aller dans la petite ville du coin pour aller consommer, pour aller faire son shopping, pour aller voir quelque chose d'autre, en fait, même si tout ce qui était sur la commune était suffisant. Donc, on voit bien que c'est envie, avoir besoin de local et de proximité, mais aussi avoir la possibilité ponctuellement de sortir de sa commune, de ses frontières communales, se réapproprier en fait son territoire, hein, notamment quand on est une personne âgée, pouvoir dire aussi qu'on est indépendant en fait et qu'on peut évidemment bouger sur ce territoire. Et donc effectivement, la question de la mobilité, elle est centrale. Et du coup, moi, je me pose encore la question de la pertinence en fait de cette notion de la ville du quart d'heure. Est-ce que on peut pas trouver autre chose? Est-ce qu'on peut pas se poser la question de quelles sont les forces vives du territoire qui permettraient au contraire, aux populations de prendre conscience peut-être des richesses, d'avoir une envie d'y rester, de s'installer, de contribuer finalement aux richesses qui sont déjà là, pour éviter, si c'est la volonté, des mobilités grandes et un rayonnement de ces mobilités de plus en plus grand. Donc voilà, c'est vraiment peut-être se faire confiance en fait au regard de ce qui est déjà là et écouter peut-être aussi la population qui est présente.
Merci beaucoup, merci à tous les trois. Alors on voit que ce concept de ville du quart d'heure, il a beaucoup de limites, mais en même temps, il ouvre plein de fenêtres de questionnement, beaucoup de sujets. Je ne sais pas si on arrivera à tous les aborder, il doit nous rester une dizaine de minutes. Donc on va prendre maintenant, j'ai un micro ici, si Chloé tu veux repartir à la pêche aux questions. Il y a quelqu'un qui levait la main là. Il y aura aussi une deuxième question et une troisième. Alors je vous propose qu'on prenne ces trois questions et puis ensuite... je vous redonnerai la parole. Question ou réaction, d'ailleurs.
Question pour Marc Verdier, Théo Caviezel. Vous disiez tout à l'heure que le pétrole nous a rendus stupides, qu'il faudrait retourner un petit peu comment on vivait avant. Je vous rejoins totalement, mais quand j'en débat avec mes connaissances, j'ai l'impression qu'on est contre ça, qu'il faut toujours aller vers la nouveauté, la création, le progrès, et qu'on n'arrive pas à se dire qu'avant, ça pouvait être mieux. Est-ce que ce n'est pas... est-ce que le principal problème n'est pas l'ego de l'être humain? Première question. Et deuxième question sur l'espace public. Il faut qu'on croise les autres, notamment en Haute-Marne. Quand je me promène dans nos villages, j'ai parfois envie de pleurer quand je vois des lotissements avec des ruelles à sens unique où on a tué le lien, on a tué, encore une fois, nos aînés faisaient les choses avec pertinence, les rues avaient leur importance, leur fonction, elles se croisaient. Et aujourd'hui, on met des choses sans cohérence, sans aménagement réel de notre territoire, et on fait des dortoirs. J'en veux pas spécialement aux maires, qui sont les vrais élus de nos territoires et qui font le mieux possible, mais on met des strates à chaque fois au-dessus d'eux, des PETR, des communautés, et ainsi de suite. Est-ce que c'est pas à eux de venir, de dire on peut vous apporter de la technique, de l'ingénierie, on vous extrait du quotidien, on vous forme? Et vous qui êtes dans l'enseignement, comment on pourrait former nos élus à ce qu'est et ce que doit être l'aménagement du territoire?
Merci. Alors juste Marc, avant de répondre, je propose qu'on prenne déjà les deux autres questions. Oui, ça va
être compliqué. Je vais essayer de faire rapide. Non, parce que je trouve Allez. Que c'est bien qu'on... Je trouve que c'est compliqué si on prend toutes les questions. Enfin, je suis désolé, c'est pas moi l'animatrice. Non, alors je défends pas du tout l'idée. Je suis pas dans l'idée de dire c'était mieux avant. Je dis les patrimoines, de façon générale, alors ce qui sont ceux auxquels que je convoque dans mon métier, hein, c'est-à-dire le paysage, l'architecture, etc., recèlent une intelligence par rapport au lieu, par rapport aux fonctions, par rapport à l'organisation, par rapport aux ressources qui étaient là. Comment on démonte le patrimoine et on le remonte avec modernité, c'est-à-dire dans nos modes de vie d'aujourd'hui, on l'a bien vu, hein, il y a une demande aussi d'ouverture vers l'extérieur, etc. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, on a une dynamique en architecture qui s'appelle la frugalité heureuse et créative, qui est une dynamique au niveau national, avec tout un tas de jeunes équipes d'architectes qui se mettent là-dessus. Je vais vous donner un exemple. On a en Lorraine, pour l'instant, l'ex-Lorraine, enfin dans la région des quatre départements de l'ex-Lorraine, mais ça se développe sur le Grand Est. On a un groupe d'architectes qui travaille sur une carte des ressources, c'est-à-dire qui cherche où sont les carrières, où sont les scieries, où sont les productions aujourd'hui de matériaux biosourcés, d'isolation, etc., où sont les savoir-faire. Et ils ont une carte des ressources et des savoir-faire qui est en train de se développer. Et quand ils répondent à un appel d'offres sur une école intercommunale, je ne sais pas où, etc., pour répondre au projet, ils regardent dans un rayon de 20, 30, 40 km quelles sont les ressources, quels sont les savoir-faire. Et le projet va se fonder là-dessus. Ce qui est quand même vachement intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit qu'on va économiser. Alors, parce que c'est quand même aussi ce qu'on appelle, nous, la RE, la réglementation environnementale de 2020, qui a remplacé la RT, qui était une réglementation thermique, qui devient une réglementation environnementale, où la question de l'empreinte carbone d'un bâtiment devient un élément de cette réglementation, pour faire court. Et donc, ça veut dire que ça, c'est un vrai sujet, parce qu'on active les capacités de ressources locales. On est sur, à un moment donné, une limitation, évidemment, des déplacements de matière, etc. Et on est sur une activation des savoir-faire et d'une économie locale via les besoins qu'on a sur un territoire. Et ça, je pense, c'est très intéressant. Et finalement, c'est une réinvention contemporaine du système. Quand on construisait sa ferme, on construisait avec les matériaux qu'il y avait là et avec une espèce de rapport entre le sol et ce qui se construisait dessus. Et c'est dans cet esprit-là que j'essaye de parler de cette affaire-là. Et c'est effectivement ce qu'on a oublié sur à la fois les formes urbaines, les lotissements en impasse, etc., et les constructions qui posent aujourd'hui un certain nombre de questions. En plus, avec une fabrication de logements qui sont du logement mono-orienté famille, ça veut dire qu'on a fabriqué que de la maison individuelle. Or, la société, c'est pas ça. Alors, Jean Viard l'a dit, hein, les séparations, les papas ou les mamans qui se retrouvent avec deux ou trois gamins ou un gamin toutes les semaines avec une alternance et qui doivent trouver un logement là où ils ont leur vie, là où ils ont leur travail, là où il y a l'école, etc. Et quelque part, il y a que de la maison individuelle qui est pas accessible pour une famille séparée. Bon, tout un tas de choses comme ça qui font de la partie de la vie quotidienne. Et notre boulot à nous, mais qui est quelque part le travail maintenant, ça va être de transformer l'existant. Ça veut dire que moi, je pense qu'il y a un gisement, et moi, je fais travailler mes étudiants là-dessus. Je pense qu'il faut arrêter de travailler sur les zones à urbaniser d'extension des communes. Il faut travailler sur le potentiel et le gisement de transformation qui est là. Et le gisement de potentiel et de transformation, c'est beaucoup ce qu'on a construit les 40-50 dernières années. Et nous, actuellement, à l'école, on travaille énormément sur qu'est-ce qu'on peut faire de ce potentiel incroyable des 40 ans de lotissement. Parce qu'il y a des rues, il y a des réseaux, il y a des gens, il y a un milieu associatif, il y a des gens qui sont attachés à leur lieu, etc. Quel est le potentiel de transformation par rapport au vieillissement, par rapport à la transformation des familles et par rapport au fait que ce bâtiment est là et il est obsolète au niveau énergétique, au niveau constructif, le retrait d'argile en plus, enfin on a tout un tas de bazar, etc. Donc voilà, je crois que cette idée, c'est pas retrouver une espèce de fantasme sur on vivait mieux avant, mais c'est en quoi ce qui est matérialisé dans les patrimoines paysagers et architecturaux peuvent être réinventés et réanimés de façon moderne et contemporaine, et comment on rentre dans une logique du recyclage et de la transformation, y compris sur ces sujets-là.
Merci. Alors, on a encore deux questions.
Oui, bonjour, Fabien Arnay. Donc, je travaille à la mairie de Toul, donc, qui est une petite ville à 15 km de Nancy. Donc, on n'est pas très loin du quart d'heure pour rejoindre la métropole, en l'occurrence. Or, j'avais une question qui, initialement, je pensais pour Mme Martin, mais peut-être également pour M. Verdier, avec l'exemple de Courcelles. Donc, en effet, on a, dans une ville comme Toul, on n'a pas les problèmes de gentrification, mais au contraire, on a même, pour des questions structurelles de comment la ville a été conçue, des besoins de recréer la mixité sociale par le haut, et notamment en centre-ville. Donc, pour cela, on a des politiques d'habitat et de valorisation de notre habitat et de réhabilitation, mais également de développement commercial. On a la chance d'avoir encore un grand nombre de services publics et de les conforter, un tissu associatif également. Mais on peut s'interroger sur comment susciter l'appropriation de ces modifications, parce qu'on a un peu le sentiment que les clichés ont la vie dure. Et que c'est difficile de manière macro-sociale créer une véritable attractivité malgré des bilans politiques concrets. Et donc c'est là que je m'interroge, quelles sont vos pistes d'après vous? Est-ce que c'est une question de mobilité qu'il faut développer? Est-ce que c'est, comme à Courcelles, peut-être avoir un incontournable inédit qui fait qu'on va là et pas ailleurs, et que quand on va là, on se rend compte des potentialités? Ou est-ce que voilà, c'est encore un autre imaginaire, un autre récit à créer pour recréer cette attractivité et vraiment connecter une ville qui n'est pas complètement rurale, mais qui n'est pas non plus en première couronne de la métropole? Merci.
Merci, c'est Elsa Martin qui vous répond.
Oui, puis peut-être Marc Verdier complétera. Oui, effectivement, hein, mon propos, c'est effectivement de dire que au regard, vous avez repris le terme de la gentrification, effectivement, les villes petites et moyennes dans leur centre-ville sont plutôt marquées par de la vacance résidentielle, par de la vacance commerciale, et pas forcément par une dynamique de gentrification qu'on trouve dans les métropoles. Néanmoins, ce modèle de la gentrification est souvent repris, en fait, comme modèle, comme espoir, hein, la volonté, au contraire, d'essayer de gentrifier le centre-ville pour essayer de ralentir la paupérisation de ces centres-villes. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je n'ai pas tout à fait les réponses, en fait. Hein, c'est-à-dire que ce que j'ai essayé d'étudier, c'est de regarder les dynamiques, en fait, dans ces centres-villes. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la structure déjà des logements, elle pose question. Souvent, hein, on a de la vacance parce qu'on a du logement ancien, parce qu'on a des, parfois dans des villes, là c'est des villes que j'ai étudiées, qui ont été soumises à des politiques de patrimonialisation, on conduit à la séparation d'hôtels particuliers qui ont conduit à des petits appartements, donc qui attirent une population particulière, qui n'est pas forcément une structure du logement qui n'est pas forcément adaptée à la venue de famille. Donc en fait, c'est aussi... Le déjà là en fait qui empêche parfois, qui donne pas envie parfois à certains ménages de s'installer, qui permet difficilement à certains ménages de s'installer. Donc peut-être que là il y a une piste. Si on veut attirer une mixité sociale, il faut peut-être essayer de penser la politique du logement et essayer de faire en sorte qu'il y ait une mixité aussi sur la structure de logement. De la même manière sur la mobilité dans un centre ancien patrimonialisé, parce que là c'est un exemple que j'ai bien en tête, la difficulté effectivement c'est le déplacement en voiture. Alors comment on fait pour garer sa voiture, où est-ce qu'on la met, où est-ce qu'on décharge les courses, quand on a des enfants et le coffre plein, comment on s'y prend. Donc effectivement c'est toutes ces questions en fait, qu'il faut essayer de pointer déjà, hein, se rendre compte qu'il y a des difficultés, essayer de comprendre quelles sont les difficultés des populations qui habitent et des possibles populations qui pourraient s'y installer, pour essayer de comprendre un peu mieux les dynamiques et essayer voilà, d'adapter finalement ces politiques publiques à ces demandes sociales. Donc j'ai pas forcément de solution, mais là en ce moment je suis en train d'étudier une ville et des commerçants qui sont installés dans son centre-ville, et l'idée c'est de se dire mais pourquoi alors, pourquoi certains commerçants s'installent en centre-ville alors qu'on parle tout le temps de vacances commerciales dans une petite ville, et on voit bien que ça tient à tout un tas de raisons, et souvent aussi à des raisons personnelles. Ce sont des gens qui habitent déjà sur le territoire, qui avaient envie de trouver parfois une reconversion professionnelle, qui ont vu une opportunité, qui ont observé qu'il y avait un local vide ou qu'il y avait une activité qui n'était pas développée, et donc ils se sont saisis de cette opportunité. Donc on voit bien aussi que ce ne sont pas nécessairement, comment dire, des grandes punchlines du marketing territorial qui va aboutir en fait à la venue de ces populations, mais plutôt l'accompagnement en local de populations qui sont déjà là, mais leur montrer qu'en fait il y a des possibles et qu'effectivement ils puissent trouver des réponses à leurs questions s'ils ont un projet à développer. Et c'est ce qu'on peut voir là, notamment sur la question des commerces. Hein. C'est pas des Parisiens qui se sont dit qu'ils allaient ouvrir une boutique de fringues au fin fond de la Picardie. Non, ce sont en fait des gens qui étaient déjà installés et qui ont vu une opportunité, mais qui se sont sentis à un moment donné aussi la possibilité de le faire.
Merci Marc.
Juste une contribution, j'en ai pour 2 minutes, mais de toute façon, ils n'ont pas encore faim. Simplement pour dire que enfin, vous avez terminé d'ailleurs en évoquant la question d'un nouvel imaginaire. Mais oui, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on soit naïf. Quoi. Depuis 40 ou 50 ans, les constructeurs de maisons individuelles, les industriels de l'habitat, ont quand même fabriqué un imaginaire de la réussite au travers de l'accès à la maison individuelle. Vous n'avez qu'à ouvrir n'importe quelle revue, n'importe quel journal, etc. Et on vous balance, vous avez des photos avec la famille heureuse, le chien, la tortue, les deux gamins, le SUV, la maison machin, etc. Et on vous raconte que c'est ça le bonheur, quoi. Et ça fait 40 ans qu'on nous bassine avec ça. Et donc, oui, il y a un imaginaire. Et je pense que la crise de l'énergie, les problèmes de pouvoir d'achat, etc., font qu'il y a des basculements qui sont en train de s'accélérer pour refabriquer un imaginaire du cœur de ville comme ici à Langres, comme à Joinville, où il y a eu un travail incroyable qui a été fait aussi pas très 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 loin d'ici, dans des villes comme Toul, Lunéville, etc. Et je pense que les politiques publiques comme Action Cœur de Ville sur les villes plus importantes, je crois pas que Toul en fasse partie, c'est Lunéville, si Toul aussi, et puis Petite Ville pour Demain pour les bourgs-centres, font partie de cette grande mécanique où on commence à avancer sur ces questions-là. Donc moi, je pense qu'il y a aussi du marketing. Enfin, je veux dire, il faut se mettre au même niveau, quoi, et dire puisque il y a une puissance absolument incroyable de l'acteur maison individuelle, et bien il faut que nous on soit suffisamment malin pour qu'il y ait aussi une capacité à montrer que le bonheur est aussi ailleurs, quoi, ici.
Merci. Et Sylvie Landrieff voulait également apporter un complément.
Donc si je peux me permettre une petite contradiction, en fait. Moi, je ne crois pas en fait que les gens veulent des maisons individuelles parce qu'on leur vend des maisons individuelles. Je pense que si, et donc il y a eu, pour ceux qui l'ont suivi, il y a eu un petit débat en fait à la suite d'une phrase de la ministre de l'ancien gouvernement qui a dit bon bah en fait finalement elle a demandé à plein de gens en fait en France ce qu'ils voulaient, elle a constaté qu'ils voulaient des maisons individuelles, puis elle en a conclu qu'il allait falloir qu'ils changent de rêve.
Je pense qu'en réalité, on ne veut pas voir les atouts de la maison individuelle. Et donc, ce n'est pas qu'une question de récit. Pourquoi les gens ils veulent des maisons individuelles? Parce que, en fait, déjà, la surface est beaucoup plus grande. C'est-à-dire que quand on compare les surfaces habitables, c'est la même chose, mais la surface à vivre, elle est beaucoup plus grande, parce que vous avez une cave, vous avez un grenier, vous avez un appentis pour mettre les vélos, etc. Parce que vous avez un jardin. Donc, on se moque des gens qui veulent un jardin. Sauf que quand vous avez des enfants en bas âge, qu'est-ce que vous en faites si vous êtes en ville, y compris dans une petite ville, y compris dans un appartement un petit peu grand dans une petite ville? Ils ne peuvent pas sortir, parce que les enfants, en fait, en ville, ils sont enfermés dans les murs, ils ne peuvent pas sortir. Donc on parle de la nature, mais l'accès à la nature pour les gamins de moins de 10 ans, à part le pavillon de jardin, on ne voit pas. Et donc en fait, moi, la question que je pose, c'est que si vraiment... Alors d'abord, peut-être que le pavillon n'est pas forcément qu'un problème au plan écologique. Donc pour le coup, il y a une intervention qui est organisée là, à la suite d'un projet de recherche qu'on a suivi la semaine prochaine au ministère, et où justement, je vais me confronter en fait avec ce que, je dirais, le discours dominant du ministère qui est anti-pavillon. Et par ailleurs, moi, je ferais remarquer que donc il y a une opposition aussi des architectes à la maison individuelle. Alors peut-être aussi parce que souvent ils ne participent pas à leur construction.
La différence entre pavillon individuel et maison individuelle.
D'accord. Okay.
On a de la maison de ville sur des parcelles de 5 mètres. Je suis sûr qu'on en a ici avec des jardins.
Des ok.
Qui sont en ville. Le problème, c'est le pavillon au milieu de sa parcelle de 1000 mètres carrés.
Alors.
C'est pas la maison individuelle. C'est la question des formes urbaines.
Donc moi, juste ce que, donc je comprends ça et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il y a des lotissements en fait qui sont parce que en fait justement, c'est parce qu'on refuse la maison individuelle qu'elle est aussi mal construite. Moi, je pense que si elle était pensée, si on intégrait en fait le désir des gens, par exemple la plasticité d'une maison individuelle qui fait que quand vous avez des enfants, vous pouvez vivre à l'étage et puis quand ils vont être partis, vous allez pouvoir vivre au rez-de-chaussée, etc., etc. Pour l'instant, en fait, on ne veut pas le voir. On fait comme la dichotomie ville-campagne. On fait comme s'il y avait une dichotomie entre le logement collectif et la maison individuelle. Donc, je suis tout à fait d'accord. Hein. Tout dépend de quelle maison individuelle, quel lotissement, etc. Mais par contre, je pense qu'on peut pas les atouts en fait que n'a pas le logement collectif.
Non mais c'est vraiment cette idée de dire que, alors c'est comme le patrimoine, je pense qu'il faut démonter la maison individuelle, vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire c'est quoi les valeurs? C'est l'espace extérieur, c'est la souplesse, c'est l'adaptation possible dans le temps, etc. Et on la remonte autrement. Et honnêtement, enfin, moi il se trouve que j'habite à Nancy dans une maison individuelle qui date de 1920, 5,50 m, la trame c'est 5,50 m, la parcelle elle fait 210 m². Je peux vous dire que ça vaut de l'or, un machin comme ça. C'est génial d'habiter un lieu comme ça parce que j'utilise 5,50 m divisé par 2 de réseau. C'est-à-dire que je coûte 2,75 m de réseau à ma collectivité. Parce que c'est ça le sujet aussi. Qu'est-ce que ça coûte le pavillon et la maison individuelle au collectif, sans compter qu'on est piégé par la bagnole. Donc dire oui, il faut... Moi, je pense que c'est d'accord. Les gens veulent de la maison individuelle pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Comment on l'a fait autrement et comment on a su la faire pendant, mais en particulier, toute la première moitié du XXe siècle. On a fabriqué des morceaux de ville fabuleux sous cette forme-là. Et je suis certain que si on regarde très attentivement la trame urbaine, y compris de la ville intramuros, on va voir des lieux de vie assez individuels qui sont de très belle qualité. Alors ça veut dire derrière ça qu'évidemment il y a une autre attention à l'espace extérieur, à l'espace public, et peut-être qu'il faut aussi accepter en travaillant avec les ABF qu'on puisse à un moment donné dédensifier, ouvrir, peut-être démolir à un moment donné une ruine, y compris dans un bourg-centre. On a travaillé sur des bourgs-centres en Meurthe-et-Moselle quand j'étais au CIE sur ces questions-là, pour pouvoir refabriquer des loggias, des terrasses extérieures, tout un tas d'espaces qui font que le centre dense redevient attractif. Et là, il faut réinventer les choses. Mais moi, je suis désolé, la maison individuelle sous sa forme consommatrice d'espace et piégeant pour la mobilité voiture, on ne peut plus se payer ce luxe-là. Donc il faut réinventer la maison individuelle sous l'habitat qui offre toutes les aménités de la maison individuelle sous d'autres formes. Et ça, c'est notre boulot aussi d'archi. Il faut que les archis se mobilisent, se bougent les fesses là-dessus.
Merci.
Je suis désolé parce que je suis vraiment...
Mais en dernier recours, j'ai un arrangement avec Thomas, l'ingénieur son, qui nous regarde depuis le haut de la salle pour couper le micro. Mais il y a une dernière question.
Merci pour vos interventions à tous les trois de grande qualité. Pierre-Étienne, je suis adjoint au maire de Chaumont en charge de l'urbanisme. Alors j'étais un petit peu interpellé par ce que vous disiez, Madame Landrieff, sur l'idée qui était développée par rapport au nombre de kilomètres de route importants en France, parce que pour moi, c'est typiquement le genre d'idée, Elsa Martin le disait, qu'on a beaucoup peut-être travaillé sur les métropoles, mais sur les territoires comme ça, c'est absolument pas opérant, parce que la France, c'est un héritage, c'est les 44 000 municipalités de 1789, c'est la Haute-Marne, c'est 500 villages, et chaque village, il en a 4 ou 5 autour, auxquels il est relié avec 2-3 km de route. Donc voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on veut dire dans cette solution? Ça veut dire qu'on va quoi? Supprimer l'accès entre deux villages pour que ce soit tel ou tel type de transport. Donc effectivement, après, la difficulté, c'est on n'est pas sur le même logiciel suivant le milieu dans lequel on évolue. Et ce que disait Marc Verdier était intéressant, par exemple, sur le collégien qui était obligé de se lever à pas d'heure pour aller au collège qui était loin. La question, en fait, pour moi, elle est sur celle de l'équilibre social, l'accès aux services. Cette question des mobilités, en fait, elle a accentué les différences à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent se permettre cette mobilité, puis il y en a d'autres qui n'y ont pas accès ou qui ne peuvent pas. C'est l'infirmière qui va voir les personnes âgées ou malades, parce que les personnes âgées ou malades ne peuvent pas se déplacer. C'est les personnes qui peuvent se permettre d'avoir le véhicule pour habiter à 15 km autour de la ville, dans le petit village, et les personnes qui ne le peuvent pas. À Chaumont, par exemple, on a deux quartiers de grands ensembles qui sont les quartiers où on a les plus bas revenus. Et le troisième quartier où on a le plus bas revenu, c'est le centre-ville. On n'a pas de problème de gentrification, nous. Les gens qui ont les moyens, ils partent, ils s'en vont autour. Et après, c'est la ville-centre. Je pense qu'on a la même difficulté à Langres, à Toul. C'est la ville-centre qui assume tout. Et alors c'était très intéressant votre intervention, M. Verdier, dans le cadre du PLUIH à Chaumont, sur justement cette question de la sobriété et tout. Mais visiblement, on est loin d'être guéri parce qu'on a deux communes voisines de Chaumont qui sont en train, avant le PLUIH, d'essayer de faire leur dernier lotissement. Encore un peu, encore un, si on peut. Voilà, c'est vraiment de la drogue. Et voilà, donc cette question, elle est effectivement liée, il me semble, au fait que des gens pourront toujours accéder à ce service, quand bien même le système s'effondre quelque part. Cette mobilité, elle a permis hier de faire les ronds-points, la grande surface en porte de ville. Elle permet aujourd'hui, dans les grandes villes, de faire les dark stores, les entrepôts, parce qu'il y a des livreurs qui peuvent le faire. Mais tout le monde ne pourra pas y accéder à ça. Et donc, je voyais encore, il n'y a pas longtemps, sur une question de mobilité, c'est celle des ZFE, des zones à faible émission, où, avec certains véhicules, on ne pourra plus accéder au centre des grandes villes. Et il y avait une carte sur le parc automobile en région parisienne qui montrait qu'il y a une moitié de l'Île-de-France qui, de toute façon, ne pourra plus accéder au centre de Paris, parce qu'ils n'ont pas les véhicules récents qui permettent et tout. Bah, Tesla, voilà, Tesla, elle pourra, mais bon. Et la question, ici, elle se pose aussi, parce que vous retirez le véhicule individuel à la personne âgée qui habite à 30 km de Langres ou de Chaumont ou quoi, bah, comment elle fait? Donc, elle a besoin de ces milliers de kilomètres de route pour accéder au service. Donc, voilà, il me semble que la question, c'est celle, avant tout, de l'équilibre, l'accès, l'équité sociale, quelque part, je puis dire. Si j'étais un petit peu provoque, je dirais on prend un petit peu les cartes des difficultés d'accès, on la superpose à la carte électorale, et puis on commence à avoir quelque chose qui... Mais bon, voilà, on le sait depuis longtemps, c'est quelque chose qui s'est révélé un peu plus ces derniers mois, mais nous, on le voit ici depuis longtemps, en Haute-Marne. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, effectivement, vous l'avez dit, on ne pense pas du tout de la même manière dans les métropoles, et ici, il ne faut surtout pas penser de la même manière, mais la question de l'accès, elle vaut pour tout le monde, cet équilibre.
Donc peut-être deux choses sur les ZFE. Alors je suis complètement, j'irais d'accord avec ce que vous indiquez. Hein. On travaille avec France Handicap qui fait remarquer en fait que les personnes à mobilité réduite étant handicapées sont le plus souvent des gens qui ne travaillent pas, donc le plus souvent des pauvres en fait, des gens qui sont RSA. Et donc la ZFE, finalement, elle va empêcher les personnes handicapées d'accéder au centre-ville. Et donc il me faisait part le responsable mobilité de France Handicap. Il disait en fait finalement France Handicap commence à être coupé en deux en fait entre la les militants anciens de l'association qui cherchent toujours à discuter, à négocier des nouvelles politiques, et puis les plus jeunes à mobilité réduite qui commencent à être vraiment agacés et qui disent de toute façon nous on ira quand même avec nos diesel en centre-ville, et puis sinon ils ont qu'à nous payer des bagnoles électriques. Hein. Donc sur votre question précédente, comment, en fait, nous justement, on est en train de, j'irais, de faire un appel à, comment, via l'Association des départements de France, justement, pour essayer de prédessiner en fait ce que serait un réseau alternatif. Donc, on connaît un endroit en fait en France où ça marche à peu près déjà comme ça. Mais disons, pourquoi pas la Haute-Marne, hein, vraiment, il n'y a pas de problème. Donc, ça, on cherche trois départements, on vient juste de lancer l'appel. Nous, notre idée, c'est effectivement d'ici, j'irais, 2-3 ans, montrer que c'est possible. On l'a chiffré déjà, donc on sait à peu près combien ça coûte. Donc là, c'est théorique, c'est pour un département type. Pour un département type, c'est à peu près 1 milliard. Donc on va dire que c'est beaucoup. Moi, je réponds toujours que le Grand Paris Express, qui va concerner qu'une petite partie de la population d'Île-de-France, c'est sans doute 50 milliards. Donc finalement, très grossièrement, 1 milliard par département, 100 départements, pour 100 milliards, on pourrait desservir la France. Donc voilà, donc après, vous avez raison, hein, il faut le tester in situ, comme on dit.
Vous venez d'écouter le replay de notre rencontre sur la ville du quart d'heure, un concept moteur pour les petites villes. Vous pouvez également retrouver la synthèse de cette journée dans le numéro 36 de notre revue Terre d'Écho, disponible sur notre site internet citoyenterritoire.fr.